et bienvenue sur la version mini de Qu'est-ce que tu ? Dans ces courts épisodes, vous retrouverez un des jeux de l'épisode enregistré. Si cet extrait vous a plu et que vous avez envie de vous immerger dans le quotidien de l'invité, foncez écouter la version longue. Allez, zoubi !
Ça va m'amener sur le premier jeu de ce podcast que j'appelle le Askip Quiz. L'intention derrière ce jeu-là, c'est de venir établir la vérité, ou du moins un peu la mettre à jour, sur un métier. L'idée, c'est que je te présente des idées reçues, et que tu me dises ce qu'il en est vraiment. Et après, l'idée, c'est de le partager massivement à tous ceux qui ont envie de faire cette profession, pour éviter justement des échecs de communication ou des idéalisations qui peuvent générer des chutes parfois très vertigineuses quand on arrive dans un nouveau métier, qu'on ait 18 ans ou qu'on en ait 40 d'ailleurs. La première que j'ai trouvée, c'est cet aspect solitaire du métier de berger, qu'on s'imagine comme un paradis. En fait, tu travailles dans le calme, tu as la paix. Et ouais, je serais intéressée de voir si c'est vraiment quelque chose qui est si sexy que ça ou pas.
Mon premier jour de garde, donc quand j'ai appris ce métier, c'était avec Jean-Luc Pitra, un berger qui est très très connu dans le monde du pastoralisme pour un tas de raisons. Et ça faisait une cinquantaine d'années qu'il gardait. Donc je commence ma journée à 4h du matin, on se lève, truc complètement... Tu sais plus où t'habites, tu sais pas ce que tu vas faire, tu sais pas comment la journée va se passer, enfin voilà, tu suis. Et puis, les brebis partent, puis à un moment tout s'arrête, les brebis il fait chaud, elles s'arrêtent, etc. Et puis, et je dis, mais combien de temps on va rester ici? Parce qu'on était posé, il me dit, ouh ça, et c'est les brebis qui décident. Bon. Pas plus de réponse, quoi, à ma question initiale qui était combien de temps on va rester ici. Question extrêmement sociale, quoi. Comment j'organise mon temps. Et il se trouve qu'on y a passé, 8 ou 9 heures, je crois, au même endroit. Et puis en repartant, il me dit, avec son ton espiègle que j'arriverai jamais à reproduire, mais il me dit, tu vois, ça, on pense toujours que le métier de berger, c'est dur parce que tu marches. Mais en fait, le plus dur, c'est d'attendre pendant 9 heures au même endroit que les brebis décident à repartir parce qu'il fait moins chaud. Donc, on était deux. On a eu des moments de discussion, des moments où on dormait, des moments où on lisait, des moments où juste on observait le glacier d'Argentière en face. Et puis après, t'es tout seul.
Avec toi-même.
Après, t'es tout seul et t'es tout seul avec toi-même. Et ce moment se répète jour après jour pendant 4 mois. Alors, ça dégraisse avec la saison qui avance, donc il fait de moins en moins chaud. Donc, les brebis s'arrêtent de moins en moins, c'est longtemps. Mais voilà, on est tout seul. C'est génial quand on a envie de l'être. C'est plus difficile quand on a des moments épuisants, fatigants, quand on est... On a toujours l'habitude de dire que c'est une saison, une estive, c'est un marathon à l'envers, quoi. C'est-à-dire qu'on commence par le sprint et on finit par la petite course du début. Donc en fait, on arrive au mois d'août où on est vraiment épuisé, on a perdu du poids, on est cuit, parce qu'on fait des journées 5h du matin à 23h, où on gère d'abord le troupeau. Et on est tout seul, donc quand ça va pas, ben, on est aussi tout seul. Donc il fallait puiser les ressources en soi quand ça va pas pour aller mieux, quoi. Et le moral était quelque chose de fantastique quand on est seul, parce qu'il a la capacité de nous clouer au lit et la capacité de nous lever aussi. Ouais. Quoi.
Oui, et puis il a cette capacité à s'autogérer, quoi. Dans ce genre d'environnement où t'as pas le choix, t'as pas d'autre, on va dire, bouée de sauvetage que toi-même.
On n'a pas le choix. Non. Là, on n'a pas de bouée de sauvetage, et puis, c'est-à-dire que quand on monte avec le troupeau et on sait qu'à partir de ce jour-là, la priorité, ça va être les animaux d'abord, donc le troupeau, les brebis, ensuite les chiens, et après nous derrière, quoi. Donc nous, on passe vraiment en dernier. Donc sur des journées assez courtes, c'est pas évident. Et quand il se met à pleuvoir pendant des jours et des jours, qu'on a du brouillard, des orages, des galères, parce qu'on perd ça peut arriver qu'on perde un lot de brebis, des attaques de loups, le fait d'être seul, c'est vraiment compliqué. Quoi. Ça peut vite devenir un cauchemar si on n'est pas solide dans sa tête. Donc, c'est chouette quand il fait beau et qu'on est allongé sur une touffe d'herbe, mais c'est quand même pas la majorité de notre temps.
Est-ce que c'est le kiff de bosser en plein air dans des lieux naturels ?
C'est l'ultra kiff. C'est l'ultra kiff de pouvoir évoluer dans un espace qui est complètement hostile au moment de notre arrivée et qui devient un membre de sa famille quand on en part. Parce qu'en fait, on a passé 4 mois à comprendre son fonctionnement naturel, que ce soit la faune, la flore, la météo. Enfin, voilà, on a l'impression de prendre racine dans cet endroit et d'en faire partie. Donc, c'est l'ultra kiff. Et en tout cas, moi, quand j'y monte, à chaque fois, c'est mon objectif. C'est de partir en me disant que c'était un membre de ma famille que j'ai découvert. Donc, c'est
et la météo n'est pas un sujet ?
Il fait le temps qu'il fait.
C'est un truc d'acceptation de quelles que soient les conditions.
De toute façon, si tu n'acceptes pas les 15 heures sous le parapluie, le froid, les brebis qui ne vont pas bien, mais toi qui ne vas pas bien non plus... C'est vite un enfer, quoi. Et tu sais que le lendemain, ça recommence, et le surlendemain peut-être aussi. Donc, c'est un long travail sur soi d'acceptation. Ouais. De rester dans le présent et de ne pas projeter, c'est dur.
T'as des phrases que tu te dis dans ta tête à ce moment-là ?
Il fait le temps qu'il fait. J'essaye de répéter ça inlassablement. Je suis plutôt quelqu'un qui aime bien que ça se passe comme il a envie que ça se passe.
Et donc,
parfois, c'est perturbant. Ouais, c'est frustrant, mais c'est une forme de... Bon, c'est une forme de psychothérapie, hein. Tu travailles sur toi, quoi.
D'autothérapie, ouais.
D'autothérapie, ouais, tout à fait.
Il y a beaucoup de personnes qui idéalisent le travail avec les animaux, dans le sens où, tu sais, quand tu n'as jamais travaillé avec les animaux, ta seule connaissance des animaux, hors des animaux qui vivent avec toi, donc le chat, etc., c'est les visites que tu peux avoir faites sur un aspect touristique, c'est voilà, le salon de l'agriculture pour les plus parisiens d'entre nous. Bah, tu vois, genre, est-ce que c'est quelque chose qui a une couleur particulière ?
Je pense qu'il y a beaucoup d'anthropomorphisation de la vision de l'animal depuis quelques années. C'est mot contre triple, ouais, il pourrait faire mot quintuple suicide, parce que tant il biaise la vision qu'on peut avoir des animaux, notamment des animaux domestiques et des animaux d'élevage. On parle trop souvent des agneaux ou des chevreaux comme des bébés, mais c'est pas des bébés, quoi, en fait. Ça a un nom, ça s'appelle agneau, chevreau. Veau.
Ouais, c'est
je pense que la maîtrise de la langue est hyper importante, quoi. Chaque mot a un sens et son usage est hyper pertinent. Donc quand on commence à appeler les animaux des bébés, moi j'ai un peu du mal avec ça. Mais ça, c'est ma vision personnelle. Je pense que c'est aussi le fait d'avoir grandi dans une ferme où le gentil petit lapin que tu caressais juste avant va finir dans ton assiette et tu vas aider ton grand-père à ce qu'il arrive dans ton assiette, mais il y a une forme de sacralisation du vivant aussi à travers tout ça. Travailler avec des animaux, c'est ingrat. C'est ingrat parce que tu donnes tout et tu t'attends à avoir parfois beaucoup de retours et tu as beaucoup d'ingratitude par moment. Mais non, je crois que c'est... On parlait d'autothérapie juste avant, mais c'est une manière aussi d'avoir un miroir en contre-plongée sur soi-même, quoi, parce que ça vient ouvrir des portes dans sa tête insoupçonnées, insoupçonnables, et puis travailler avec un immense troupeau, quoi. C'est-à-dire que quand tu as 1500 têtes, bon, ça paraît gros comme ça, mais c'est plus petit, hein, 1500 têtes. Tu développes une forme de relationnel et puis tu es dans un espace qui est complètement ouvert. Et ton objectif à toi, en tant que berger, c'est d'être en vacances pendant 4 mois. Donc, c'est que le troupeau soit en vacances, mais toi aussi. Donc, en fait, la domestication et l'apprivoisement prend tout son sens. Et là où est l'essence de notre métier, et c'est toute la différence qu'on peut avoir avec les éleveurs, c'est que 90% de notre boulot, c'est d'établir une relation de confiance entre cet immense troupeau et nous tout seuls. Ouais. Et quand on a réussi, c'est-à-dire que quand les bêtes réagissent à la voix, qu'elles sont plus effrayées, qu'elles nous laissent avancer au milieu d'elles, les manipuler sans trop de difficultés. On a tout gagné, quoi. On a tout gagné, et puis c'est une immense récompense personnelle, quoi.
Ouais.
Mais c'est ingrat, parce que les bêtes peuvent nous blesser, elles nous blessent, hein, clairement. Elles nous blessent quand on veut les soigner. C'est pas toujours facile. Et puis, faut dire ce qu'il est, quoi. Je veux dire, ça reste des animaux, on vit au milieu des animaux, des odeurs. Ouais. Sentir le berger, c'est sentir la brebis, quoi. Donc, on s'en rend pas forcément compte. Ça. Même si on se lave, hein, heureusement, on a des douches aujourd'hui.
Oui. Elles se blessent entre elles aussi, non ?
Les animaux peuvent se blesser entre eux, tout à fait.
Ce que je veux dire, c'est que c'est pas dirigé vers toi, humain, parce qu'elles sont effrayées. C'est parce que si elles sont en confiance avec toi, et que cette petite peur disparaît.
Quand on taille le pied d'une brebis parce que le pied est un peu échauffé au niveau des onglons, qu'elle boite, et que du coup il faut dégager l'onglon correctement, ça reste une partie douloureuse, et que quand tu l'as saisie, la brebis, elle sait qu'elle va avoir un moment pas forcément évident, et qu'en fonction de ses expériences passées avec ou des bergers ou des éleveurs sur cette façon de faire, ça peut être une réaction plus ou moins vive. Et un pied de brebis, enfin moi j'ai déjà pris en pleine tête, c'est KO direct. Hein. Ça a beau être petit comme ça, mignon, la force que ça a, c'est impressionnant. Ouais.
Ok. T'as les mêmes troupeaux tous les ans ou pas forcément ?
Alors moi je change, j'ai cette bougeotte, donc j'ai pas mal évolué. J'ai pas mal évolué au fur et à mesure des saisons, notamment l'été. Au printemps, je suis retourné beaucoup de fois au même endroit, sur la montagne de Lure. C'est un endroit que j'affectionne particulièrement.
Du coup, ça doit être un peu particulier, parce que tu as des brebis où... Je ne sais pas si elles ont une mémoire. Y a ce truc déjà de... Si tu changes tous les ans, reconstruire à chaque fois ce nouveau lien. Et puis après, tu as celles que tu revois. Et est-ce que tu sens qu'elles se souviennent de toi, ou c'est pareil, elles t'oublient ?
En fait, elle t'oublie, parce que elle t'oublie. Alors celle que tu revois, elle t'oublie, mais ça revient plus vite. C'est-à-dire qu'elle se dit, ah oui, je me souviens de ce gars-là avec ses chiens. S'il fait ça, c'est pas cool. Donc on va arrêter.
Ça me barre.
Ouais, le type là avec son béret un peu bizarre là, et ses deux chiens caramel là, ils ont pas l'air très tendres. Du coup, elles se souviennent effectivement d'une année sur l'autre. Non, elles ont une mémoire des lieux qui est assez phénoménale, c'est-à-dire qu'elles remontent tous les ans au même endroit, ou même quand tu les changes, elles connaissent d'une année sur l'autre. Elles se rappellent les bons coups à faire, quoi. Les mauvais pour toi, mais elles se rappellent des bons coups, du chemin, elles se rappellent de tout. Elles ont une mémoire ancrée, et même avec les bergers... On a nos petits trucs à nous, nos appels, qui font qu'au bout d'un moment, ça revient. Elle se dit, ah oui, c'est vrai, cet endroit-là est associé à cette personne.
Génial.
Et puis, surtout, quand on reprend un nouveau troupeau, souvent, ce qui est intéressant, c'est de voir le fonctionnement qu'elle pouvait avoir avec le berger d'avant, qui était forcément différent du tien. Donc, tu t'aperçois des modes de garde de chacun, quoi.
Oui, donc, en fait, tu peux te faire marcher dessus assez facilement, et du coup si tu te fais marcher dessus, tu ouvres la voie à ce que tous les bergers qui viennent après toi se fassent marcher dessus.
Pas forcément, on peut pas dire se faire marcher dessus, mais chacun a sa manière de garder et ses méthodes, et c'est chouette. Je veux dire, tout est complémentaire, on apprend toujours les uns des autres. Mais entre un jeune berger qui a gardé le troupeau très serré tout le temps parce qu'il a toujours peur de les perdre, et un berger qui a plus d'expérience, qui va vraiment laisser le troupeau s'étaler, qui lui va avoir plus confiance, voilà. Par exemple, c'est deux modes de garde extrêmement différents, quoi.
En tant que berger, est-ce que tu tisses du lien avec les terroirs dans lesquels tu travailles, les éleveurs, les gardiens de refuge?
Terriblement en fait. On n'est pas si seul que ça, au contraire, on est inscrit dans une logique territoriale. Les estives sont gérées de toute façon, de façon collective. Il y a toujours du public, du privé, c'est toujours mélangé. Donc en fait, on a les maires de communes qui sont souvent impliqués. On a les filières fromagères pour la partie fromagère, les filières viande qui sont aussi impliquées dedans. On a des associations qui font le lien entre les éleveurs et les pouvoirs publics pour favoriser et faciliter le pastoralisme. On a le tourisme, on a des parcs nationaux des fois, donc on est vraiment au milieu d'un écosystème qu'on aimerait souvent être, voir loin de nous pour être tranquille, mais on en fait partie et on doit dealer avec quoi en permanence.
Ouais. Parce que c'est donc des relations qui sont pas forcément éleveurs. Toujours plaisantes.
On n'a pas toujours les mêmes intérêts, on est souvent en lieu et place de médiation. Que ce soit pour des usages touristiques des espaces, que ce soit vélo, randonnée, parapente, on voit beaucoup de choses. La chasse aussi, parce qu'on oublie souvent, mais il y a de la chasse en montagne hein, à partir de septembre-octobre. L'usage pastoral de la montagne, où effectivement, quand on a un groupement pastoral avec 1500 brebis, 5-6 éleveurs, ben on deal en permanence avec les éleveurs parce que ils nous font confiance, mais on a leur compte en banque entre nos mains, quoi. C'est-à-dire que eux, c'est toute leur richesse. Et que du coup, moi, je pars du principe que communiquer, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais ça fait partie de notre boulot avec notre employeur. Expliquer les raisons pour lesquelles on avance et on fonctionne dans la montagne, c'est important. Et écouter aussi leur retour est aussi important. C'est vraiment un boulot main dans la main, quoi.
Tu sais que le mot cheptel est un des mots qui a inspiré le mot capital.
Ouais. Donc, tu vois, ça capital. Prend, tout à sens. Fait. C'était les gros troupeaux lainiers hein, qui sont arrivés par Napoléon à l'époque où la laine était vraiment se vendait très cher. C'était une ressource très importante. Donc c'est Napoléon hein, qui a fait venir les mérinos de mémoire, hein, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à Rambouillet pour en faire toute une sélection et développer le capital, le fameux capital.
Et pour autant, les laines mérinos françaises d'aujourd'hui, je crois que ce n'est pas super en termes de valorisation, non ?
On a un souci en France et en Europe hein, globalement de valorisation de la laine, mais depuis les années 80, puisqu'on a transférer cette partie de l'industrie en Chine, notamment.
Génial. Donc, on a
transféré les machines et les compétences.
Tant qu'on a gardé les brebis, au moins.
On a gardé les brebis, effectivement. Et pourtant, on a une qualité de laine, la mérinos française, européenne, en tout cas, une qualité de laine incroyable. C'est la fibre la plus fine. Et il y a une tentative aujourd'hui de recréer de la filière, une filière laine en France. Donc, c'est à saluer parce que les éleveurs, c'est pas un sous-produit, quoi.
Ouais, ouais,
c'est un produit clair. Qui est extrêmement important pour l'industrie vestimentaire, pour un tas d'usages aussi en dehors.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, je crois que ça m'aide à être visible si vous notez le podcast 5 sur 5. Après, j'ai franchement pas creusé l'algo. Mais je me dis que si tout le monde met 5 sur 5, ça va juste me faire kiffer. Et c'est le principal. Si vous voulez en savoir plus et m'aider à préparer mes épisodes, rendez-vous sur le compte Instagram de Questuf, questuf.podcast. Allez, zoubi !